Vous écoutez, on lit pour vous.
Copenhague à vélo, la grande reine. Un texte de la rédaction paru le 24 avril 2024 dans Voyageurs du Monde. Copenhague, la capitale du Danemark, pays modèle en termes d'écologie, donne la mesure d'une vie urbaine en phase avec l'époque et ses enjeux environnementaux. Virer dans une ville verte, en plusieurs étapes et à vélo, bien sûr. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, et même sous le soleil, Copenhague pédale. La capitale danoise compte près de 700 000 vélos, soit pratiquement autant que d'habitants et 5 fois plus que de voitures. À l'heure de pointe, la ville est un peloton discontinu de cyclistes pressés mais ordonnés qui, chaque jour, se croisent sur un réseau de 350 km de pistes. Considéré par les Danois comme le meilleur ami de l'homme et de la femme, le vélo est aussi un symbole d'engagement écologique qui s'inscrit dans une politique globale du pays visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 70 % en 2030. Un objectif en bonne voie de réalisation, Copenhague ayant annoncé fin 2019 avoir réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 60 % en 10 ans et vouloir atteindre la neutralité carbone d'ici 2025, devenant ainsi une référence européenne en matière de développement urbain, qu'il s'agisse de mobilité ou d'aménagement. Au nord-ouest de la ville, séparé du centre historique par le lac Peblingså, le quartier de Norrebro est une parfaite démonstration de la mutation à explorer sur deux roues. Ce village, exemplaire de mixité sociale et culturelle, a fait de ses anciennes rues malfamées, telles que Jägersborgade, le nouveau rendez-vous de la branchitude verte. Entre les parcs et les espaces créatifs, voire l'étonnant Superkillen, fleurissent friperies vintage, barista et micro-brasseries. Dans ce quartier pluriculturel, shawarma et smørrebrød, le sandwich danois, se côtoient en terrasse, mais on cultive également l'art de bien manger éthique. Des adresses emblématiques comme le restaurant Relais ont porté au nu une cuisine principalement végétarienne et forcément bio. Un sillon dans lequel ont germé une multitude d'adresses qui aujourd'hui vont plus loin en limitant au maximum leur empreinte carbone. Chez Best, notamment, des courgettes à la mozzarella. Tous les ingrédients sont produits par une ferme locale. Des quartiers calmes et familiaux. Le Made in Copenhague, à la cotte et le grod porridge d'antan, est remis au goût du jour. De l'autre côté du Faldparken, où l'on vient courir ou pique-niquer, Østerbro est un district plus calme et familial, mais toujours vert. L'ancien pâturage invite à la fois sur ses toits restaurants et jardins communautaires. La place Tazinch, hier terrain vague, accueille un bassin destiné à recueillir les eaux de pluie. Parade aux inondations liées au changement climatique. Dans son prolongement, avançant sur la Baltique, Nordhavn est l'ultime bastion écologique de la ville. Abritant un grand centre de recherche, cet écoquartier teste les fondements d'une wise city, ville sage, basée sur les énergies renouvelables et une organisation urbaine optimisée. Et Copenhague continue à pédaler avec une longueur d'avance. In the mood. La capitale d'un pays très à cheval sur l'écologie se dont à pied ou à vélo le meilleur moyen de profiter des espaces verts comme les beaux jardins de la Royal Library, celui de Frederiksberg Have ou encore le parc Tivoli. Au printemps, on y déjeune végétarien dans la serre de Nim Jimmies. En hiver, s'y tient l'un des plus beaux marchés de Noël. Le climat hivernal est une invitation à tester le fameux Hygge, à bruncher à l'hôtel d'Angleterre, se réchauffer au marché couvert de Toverholland, goûter aux différentes déclinaisons du smørrebrød, ce sandwich de seigle ouvert, aux ingrédients de mer et de terre, mais, d'une manière plus globale, à la nouvelle cuisine danoise, saine, inventive et enracinée au pays, initiée par le célèbre Noma. Puis, envisager de relooker son intérieur grâce à une virée design aux côtés d'un spécialiste du mobilier scandinave. Enfin, prendre l'air et l'art aux portes de la ville, au musée Louisiana et plus loin, à Aarhus. C'était Copenhague à vélo, la grande reine, un texte de la rédaction paru le 24 avril 2024 dans Voyageurs du Monde.
La figure de l'allumeuse, un mythe pour dominer les femmes, une entrevue réalisée par Noémie Emmanuel, parue le 5 décembre 2024 dans Axel. Dans un ouvrage paru en mai 2024 aux éditions du Seuil, Christine Van Gien, philosophe, autrice, professeure et journaliste, analyse le mythe tenace de l'allumeuse. Elle explique de quelle manière il justifie les violences faites aux femmes et permet d'éteindre leurs désirs. Pourquoi vous a-t-il semblé important d'écrire ce livre ? Ce livre part du sentiment d'avoir toute ma vie dû faire attention à ne pas occuper trop l'espace, à ne pas rire trop fort, à ne pas danser de façon aussi exubérante, à ne pas prendre la parole pour dire tout ce que j'ai à dire, dans la mesure où toutes ces manifestations d'existence sont souvent comprises et détournées comme quelque chose qui potentiellement déclenche des comportements dangereux pour les femmes. Aujourd'hui, j'approche des 50 ans et je réalise que j'ai moins besoin de cette prudence parce que je suis moins regardée. Toute ma vie, on m'a demandé de m'éteindre et maintenant qu'on me sexualise moins, j'ai le droit de m'allumer davantage. Ce n'est pas normal. Toutes les filles devraient avoir le droit de briller, de s'allumer, de brûler dès qu'elles commencent à vivre sans que ce soit pris à mauvais escient. En quoi la figure de l'allumeuse est-elle un mythe? Le mythe de l'allumeuse nous fait croire que certaines femmes, voire toutes les femmes, ont une capacité magique à vouloir déclencher le désir chez les hommes sans qu'on sache si elles veulent aller jusqu'au bout ou non. C'est un mythe très ancien. Adam et Ève, déjà, c'est une histoire de tentatrice, d'allumeuse. C'est aussi pour cette raison que j'ai appelé mon essai « Genèse d'un mythe » en référence à l'Ancien Testament. La Genèse, c'est ce livre dans lequel on nous raconte qu'Ève aurait tenté Adam et l'aurait fait choir, lui et toute l'humanité. Or, si l'on regarde le texte de près, ce n'est pas cela que ça raconte. Quand on relit l'histoire, on voit que l'un et l'autre ont été tentés. L'un et l'autre ont cédé à la tentation. Le mal, c'est de ne pas répondre de ses actes, de ne pas dire « je l'ai fait, j'assume la responsabilité ». Adam se défausse sur Ève. Et ça va retomber sur elle et sur toutes les femmes après elle. La genèse de cette idée est que les femmes sont coupables, qu'elles sont des tentatrices par essence. Il y a plein d'autres figures mythiques et mythologiques, des personnes de fiction qui incarnent cette idée que les femmes déclencheraient chez les hommes des pulsions qu'ils ne pourraient pas réprimer. Toutes ces histoires, quand on regarde bien, ne parlent pas de tentatrices, mais de frustration, de peur, d'impuissance, d'angoisse qui ne peuvent pas être regardées en face par les dominants, par les hommes en l'occurrence. Et ce qu'on n'arrive pas à regarder en face, on va le projeter chez l'autre la femme. Quel lien entre l'allumeuse et les violences faites aux femmes? Le mythe de l'allumeuse a un rôle dans la construction patriarcale. Il permet de dire aux femmes que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas, c'est la même chose. Vous allumez le désir. Par conséquent, il ne faut pas vous étonner quand les hommes, tout embrasés, vont, eux, jusqu'au bout. C'est la libye tout trouvée aux violences sexistes et sexuelles. La culture de l'allumeuse, c'est la même chose que ce qu'on appelle la culture du viol. C'est sa racine. En disant qu'il y a des allumeuses, on dissout la notion de viol. On la rend impossible à définir et à comprendre. Dans ce mythe, il y a toute la violence de la domination. Il s'agit de dire que celles qui sont victimes de la domination, celles qui se font violer, abuser, sont en fait coupables. On dit « si les femmes n'allumaient pas, elles ne seraient pas violées », comme on dit « si les pauvres travaillaient, ils ne seraient pas pauvres ». On inverse le schéma. Toutes les structures de domination fonctionnent comme ça. Pour qu'elles se perpétuent, elles doivent accuser la victime d'être la coupable. Qu'est-ce que la notion d'allumeuse fait aux femmes? Dire que les femmes allument, et elles seules, puisque allumeuse n'existe pas au masculin, ou du moins pas dans le même sens, c'est considérer que le désir est asymétrique selon les genres. Tandis que les femmes ont pour rôle d'allumer, on ne sait jamais ce qu'elles font alors dans le sexe. Elles sont là pour susciter du désir, pas pour jouir. De l'autre côté, les hommes seraient complètement absents dans le fait de susciter le désir. Ils attendent. Ils attendent que les femmes soient jolies, fassent les belles. Et une fois allumées, ils font ce qui serait attendu d'eux dans l'acte sexuel, pénétrer. Cette façon de voir rend le consentement impossible à penser. Dans cette vision, il n'y a pas de place pour le désir des femmes. Elles sont uniquement vouées à susciter le désir des hommes. Leur corps appartient à l'autre. Et de fait, quand on est une femme, on a davantage tendance à vérifier qu'on est agréable, séduisante, etc. On n'habite pas son corps comme les hommes. Je pense parfois à cette expérience de mort imminente. On dit qu'on voit son corps de l'extérieur, qu'on flotte au-dessus. Eh bien, en tant que femme, on n'a pas besoin d'être en train de mourir. Moi, je vois mon corps de l'extérieur en permanence. On est tout le temps en train de se regarder dans un miroir, c'est-à-dire de regarder son corps, comme si on n'était pas dedans. Or, pour jouir de la vie, il faut être dedans. Ça se vérifie dans les comportements alimentaires. On ne mange pas avec la même insouciance quand on est une femme. On fait attention. Ça se voit aussi dans le rapport des femmes à leur plaisir sexuel. Les femmes ont plus de mal à avoir des orgasmes que les hommes. Je ne crois pas du tout que ce soit une affaire biologique. Je pense que c'est vraiment parce que les femmes ne sont pas dans leur corps. Parce qu'il faut être séduisante, allumer un peu, provoquer du désir et, en même temps, être provocante, c'est mal. Et si on est provocante, comme on nous le répète, il ne faut pas s'étonner qu'il nous arrive les pires déboires. Dans une première partie, le livre revient sur les figures mythiques qui peuplent nos imaginaires, Ève, Lolita, Marilyn. Dans la seconde partie, il s'appuie sur des rencontres avec de vraies personnes. Pourquoi cela vous a semblé important de mener ces entretiens avec des femmes? Les témoignages permettent de montrer que ces vieux mythes existent bel et bien et sont encore très présents aujourd'hui. Allumeuse, c'est un mot bâillon, c'est un mot qui dit « tu as cherché à me séduire et à partir de là, tu ne peux plus rien dire. C'est normal que mon désir maintenant s'exerce sur toi jusqu'au bout, sans que tu n'aies plus rien à dire. » Allumeuse étant un mot bâillon, il est essentiel d'enlever le bâillon, d'écouter la voix de celle qu'on a construite comme des allumeuses. Marilyn, par exemple, c'est un mythe. Elle n'a jamais existé que dans l'imagination de ceux qui l'ont fabriquée. C'est important d'écouter sa voix à elle, de montrer comment ça s'est passé pour elle. Elle le décrit admirablement, ce mécanisme de la projection. Elle explique que quand les gens voyaient Marilyn, ils voyaient en fait quelque chose qui émanait d'eux-mêmes. C'est cinématographique, comme un projecteur au sens littéral. L'écran, c'est Marilyn, et sur cet écran, les imaginaires s'y projettent. Mais ces choses qu'on pense voir là où elle est viennent en fait du projecteur. C'était la figure de l'allumeuse, un mythe pour dominer les femmes. Une entrevue réalisée par Noémie Emmanuel, parue le 5 décembre 2024 dans Axel.
L'étiquette des écouteurs à l'aéroport. Un texte de Nathalie Compton du Washington Post, paru le 25 mai 2024 dans la presse. Mettre ses écouteurs et écouter quelque chose aide à passer le temps quand il faut attendre. Faire la queue à la sécurité de l'aéroport, pas si mal si on peut regarder un tutoriel de jardinage. Un vol de 12 heures, pas de problème si vous avez téléchargé l'intégralité de votre série préférée sur votre portable. L'omniprésence des écouteurs a commencé en 1979 avec le Walkman de Sony. Salué comme une merveille moderne ou dénoncé comme un vecteur d'incivilité individualiste, ils sont partout. À la veille des vacances, voici quelques suggestions sur leur usage, en particulier dans les aéroports et les avions où nous partageons un espace limité avec de nombreux autres êtres humains. Quand faut-il retirer ses écouteurs? Des spécialistes de l'étiquette aéroportuaire nous donnent leur avis. Restez en contact avec la réalité. Les écouteurs sont un don du ciel pour se soustraire à l'atmosphère frénétique de l'aéroport. Bébé qui pleure, bavard qui parle fort, ouvrier qui rénove, enrhumé qui tousse. Mais s'exclure à 100% de l'environnement sonore peut causer de grands problèmes. Vous risquez de manquer des informations cruciales et de compromettre sérieusement votre voyage, explique Johnny Lane, agente de bord à Delta Airlines depuis 16 ans. Si on annonce aux passagers un changement de porte d'embarquement ou une urgence, vous êtes fait. Si on vous demande à l'interphone, vous pourriez rater le vol, retarder l'embarquement et compliquer la tâche du personnel. C'est pour ça qu'on demande aux gens de prêter attention s'ils portent leurs écouteurs, dit Mme Lane. Retirez vos écouteurs avec le personnel. Face à un agent d'embarquement, un caissier de Starbucks ou une agente de bord, le degré zéro de la courtoisie est de lui accorder votre attention, rappelle Nick Layton, qui anime « Were you raised by wolves? Avez-vous été élevé par des loups? » Balado sur la politesse au 21e siècle. Ne pas enlever ses écouteurs quand on vous parle est un péché capital. C'est important d'être conscient de l'énergie qu'on envoie aux autres, dit David Coggins, auteur de Men and Manners, Les hommes et la courtoisie, un livre à succès américain. Avec les écouteurs, on se met dans sa petite bulle en mode annulation de bruit, mais on ignore tout le monde aux alentours, ajoute-t-il. On veut quand même entrer en contact avec nos semblables. En abordant quelqu'un ou vice-versa, enlevez donc vos écouteurs et vos lunettes fumées et lâchez le cellulaire, suggère M. Layton. Même chose en présentant votre passeport et votre carte d'embarquement, en saluant l'agent de bord ou en faisant au moins un petit signe de tête à vos voisins de rangée. Quand quelqu'un s'assoit à côté de moi dans l'avion, je le regarde, je lui souris et je lui dis « bonjour ». Explique M. Coggins. Mais ensuite, je détourne le regard. Surtout rien qui encourage une conversation épouvantable du genre Alors vous êtes d'où, vous ? La courtoisie minimale d'enlever ses écouteurs au début est une façon d'acquiescer qu'on sera cordé comme du bois de chauffage durant plusieurs heures et un signal que je veux que ça se passe bien, résume M. Coggins. Accommodement auriculaire raisonnable. Avec un casque d'écoute. Il vaut mieux se le mettre autour du cou si on échange avec quelqu'un. Avec des écouteurs boutons, en retirer un seul suffit à signifier sa considération à l'interlocuteur. Dans la file d'attente, quand j'arrive au comptoir, j'enlève généralement un écouteur pour que la personne sache qu'elle a mon attention et je lui dis merci, ajoute M. Coggins. Madame Lane, l'agente de bord, est d'accord. En laisser un seul sur son épaule suffit. C'est ce qu'elle fait elle-même quand elle prend l'avion comme passagère. Ce serait bien d'enlever les deux, mais vous savez, en enlever un, ça va, c'est correct. Gardez vos appels et vos vidéos pour vous. Ce qui n'est jamais acceptable, c'est d'écouter quoi que ce soit sur le haut-parleur. Les écouteurs sont obligatoires si on vous appelle, si vous prenez vos messages, si vous regardez une vidéo ou jouez à un jeu vidéo sur votre téléphone. Si porter vos écouteurs au mauvais moment est impoli pour les quelques personnes que vous ignorez, imposer votre réunion Zoom à vos voisins est un crime contre tout le monde, a déclaré M. Coggins. La tendance récente à prendre ses appels sur le haut-parleur en public est particulièrement odieuse. Il y a beaucoup de gens qui aiment parler au téléphone comme si c'était un walkie-talkie, déplore M. Coggins. Rendez service à tout le monde et mettez votre téléphone à l'oreille, à l'ancienne, ou mettez vos écouteurs. Prêtez attention aux consignes de sécurité. Même si vous avez entendu le topo un millier de fois, enlevez vos écouteurs quand l'agente de bord se place au bout de l'allée pour montrer les consignes de sécurité avant le décollage. C'est une question de courtoisie, mais aussi de sécurité, dit M. Layton, qui rappelle que tous les avions ne sont pas faits pareils. Évacuer un avion en 90 secondes ou moins, c'est un vrai travail d'équipe. C'est un petit geste, mais l'équipage l'apprécie. Ça finit par me peser quand je le fais plusieurs fois dans la même journée et qu'on m'ignore à répétition, avoue Mme Lane. C'est frustrant. Je suis là avant tout pour leur sécurité. Les agents de bord sont chargés de vous aider en cas d'urgence. Les consignes de sécurité, elles, sont faites pour que vous puissiez vous aider vous-même. Par ailleurs, vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation où vous les avez complètement ignorés, même pas un regard. Et puis, vous avez besoin d'aide pendant le vol, dit Jules Hirsch, co-auteur du livre « Power of Civility ». Le pouvoir de la civilité. À l'inverse, il faut savoir que certains autistes utilisent le casque d'écoute pour minimiser les déclencheurs sensoriels et les gardent en permanence pour mieux tolérer les endroits bruyants et bondés comme les aéroports ou les avions. Prenez un moment avant de juger. On ne sait pas tout sur les gens. C'était l'étiquette des écouteurs à l'aéroport. Un texte de Nathalie Compton du Washington Post, paru le 25 mai 2024 dans La Presse.
Les leçons du tsunami de décembre 2004. Un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 23 décembre 2024 dans Le Devoir. Le tsunami de décembre 2004 a causé des dégâts humains et matériels rarement vus dans l'histoire humaine. Il a aussi provoqué une réponse internationale si importante qu'elle a forcé une redéfinition de l'intervention en situation d'urgence. 20 ans plus tard, quelles leçons les humanitaires ont-ils tirées du tsunami? Dans les mois qui ont suivi le raz-de-marée mortel, une autre forme de vague a déferlé sur l'Asie du Sud-Est. L'afflux des milliers de travailleurs humanitaires venus prêter main-forte aux autorités locales et, dans certains cas, s'y substituer. Au total, selon les estimations de François Audette, directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire, OCCAH, ce sont près de 3000 organisations qui se sont partagées les efforts d'urgence et de reconstruction dans une douzaine de pays. Un véritable fouillis organisationnel qui a parfois ralenti le processus d'aide et drainé les ressources locales. La région a été submergée d'organisations internationales. Certaines avaient une grande utilité, d'autres beaucoup moins, estime M. Audet, qui est intervenu en Indonésie au sein de l'équipe d'urgence de Care Canada. Cette mobilisation sans précédent aura aidé à redéfinir les approches des interventions humanitaires auprès de populations vulnérables. Aujourd'hui, on tente de faire tout ce qu'on peut pour mettre les acteurs locaux en charge le plus rapidement possible, et c'est un développement intéressant qu'on voit depuis le tsunami, indique Jean-Pierre Tachereau, qui a passé plus de 20 ans au sein de la direction de la Croix-Rouge canadienne. Ce sont eux, les gens touchés, qui sont les mieux placés pour connaître leurs besoins. C'est un changement significatif dans la façon dont on travaille. Ça parle d'un respect plus grand à l'égard des gens qu'on cherche à aider. Pour la plupart, c'était des gens qui avaient un gagne-pain, qui étaient fiers, mais qui ont tout perdu parce qu'ils étaient à la mauvaise place au mauvais moment. Très peu de gens préféraient recevoir la charité plutôt que d'avoir un travail qui leur permet de gagner leur vie et de rebâtir leur propre avenir. Lina Holguin, qui est intervenue en Indonésie, se souvient d'être débarquée en hélicoptère avec l'équipe d'Oxfam dans un village isolé qui, 15 jours après la catastrophe, n'avait encore reçu aucune aide. C'était un village de pêcheurs. Ils avaient réussi à courir vers la montagne et à éviter le pire. À notre arrivée, ils étaient déjà très organisés. Ils nous ont présenté leur comité, leurs besoins et nous ont dit « On est des pêcheurs, on veut pêcher, on ne veut pas de nourriture, on sait quoi faire pour s'en sortir. » L'approche inclusive au service des besoins des communautés qui mise sur la localisation de l'aide est depuis la norme. On peut dire que la réponse au tsunami a été le moment qui a le plus changé l'action humanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale, estime François Audet. Le tsunami a transformé les manières de faire parce qu'on s'est retrouvé devant nos limites. On s'est retrouvé devant nos bobos, nos biais, nos préjugés, notre manière de faire un peu cow-boy, peut-être au prix d'erreurs importantes pour les sociétés locales. Mais cela a renforcé certainement l'écosystème humanitaire pour les prochaines crises. C'était Les leçons du tsunami de décembre 2004, un texte de Benoît Valois-Nadeau paru le 23 décembre 2024 dans Le Devoir.